Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un plaisir à parler, un plaisir partagé. Parler en alexandrin. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Dernière illustration, cinquième volet d'une série de 5 chemins de la connaissance proposée par Françoise Lebrun en avril 1992. L'alexandrin à la Comédie-Française avec Jacques Lassalle et Jean-Loup Rivière.
Alexandrin, vers français de 12 syllabes dont l'histoire du XVIe au XIXe siècle se confond presque avec celle de la poésie française, Petit Robert. Alexandrin, aboli bibelot d'inanité sonore, Mallarmé. Est-ce que, d'après vous, le travail d'un texte en alexandrin amène une série de contraintes qui seraient, je dirais, un ralentissement au jeu de l'acteur ou au contraire un approfondissement du jeu de l'acteur ?
Aujourd'hui, l'alexandrin,
Jacques Lassalle,
est une violence si grande qui nous est faite quant à l'écart, quant à la convention, quant au code imposé. Ça n'est pas la peine... Je crois d'en remettre préalablement, c'est-à-dire que il faut affronter cette langue-là dans toutes ses dimensions, mais peut-être pas partir d'une, enfin, comment dire, de la certitude de sa spécificité. Enfin, il faut retrouver l'alexandrin à force de tenter de l'oublier. Il se rappelle tout seul à notre bon souvenir. Plus généralement, tout texte ne commence à bien se parler que lorsque nous l'avons oublié. On sait bien. Voilà, il faut faire que le texte se parle, que nous ne soyons pour le texte qu'une bouche de profération. Il faut arriver à ça. Ça ne suppose pas moins de travail, pas moins d'artisanal attention à sa structure, à son organisation, à son vocabulaire, à sa... Mais sans un préalable péremptoire, hégémonique du... C'est la versification du XVIIe siècle, nous allons partir... Je ne crois pas. Je crois qu'il faut réinventer notre alexandrin. Enfin, il faut trouver sa nécessité intérieure à l'alexandrin. Enfin, d'abord, il ne faut pas considérer que de toutes les manières, l'alexandrin est une plus-value, une valeur ajoutée au texte. Il y a des textes qui atteignent... Alors... Et il ne faut pas considérer non plus... du point de vue de l'acteur, que bien parler la prose de Molière, c'est un effort moindre que bien parler, pour ne parler que de Molière, puisque pour Corneille et Racine, la question ne se pose pas, et que le genre tragique ne peut pas s'accommoder d'autre chose que de l'alexandrin. Mais la grande prose comique est au moins aussi rythmée, est au moins aussi structurée, obéit au moins autant de codes vocaux que l'alexandrin.
Et voire même aux mêmes règles de
oui,
de...
Il y a un jeu d'assonance. Il y a un... Voilà. Donc, chaque fois, alexandrin ou pas, versification ou pas, il faut considérer l'objet textuel comme un objet singulier, irréductible à tout autre que lui-même, et en trouver... Comment dire, l'organisation profonde, en retrouver la respiration intime. Je dirais même que dans une certaine mesure, l'alexandrin, parce qu'il propose de massivement impérieux, de massivement obligé, facilite presque trop les choses à l'acteur. Parce qu'enfin, en dernière analyse, qu'est-ce qu'il faut faire oublier dans un texte ? C'est comment il est fait, c'est-à-dire de nous rendre évident, nécessaire est proche dans sa distance même, dans sa différence même, le singulier de l'œuvre. Enfin, voilà, c'est toujours vrai. Et celui qui met entre l'œuvre et moi, entre l'auteur et moi, la pompeuse, la solennelle, le solennel appareil de sa forme, celui-là me fait presque, je le prends toujours.
Pour un cuistre et un trissotin, voilà.
C'est vrai qu'il n'y a rien de plus émouvant, de plus bouleversant au théâtre et ailleurs qu'une forme complexe, extraordinairement raffinée, extraordinairement savante, s'approche de nous dans la modestie même d'une forme simple, d'une forme essentielle. Je dis pas élémentaire, mais d'une forme simple, d'une forme proche, d'une forme. Vous voyez, autrement dit, là aussi, le formalisme est un très grand.
Oui, mais ça se lie aussi au travail qu'on fait sur cette forme. C'est-à-dire qu'effectivement, cette forme qui apparemment est très, je ne reprendrai pas le mot pompeux, mais en tout cas très présente, peut devenir simplement une, je dirais, amener des choses qui sont d'une intensité extraordinaire sans la signalisation. On a simplement cette... C'est vrai qu'on ne parle pas de la même manière à certaines personnes et que c'est... La forme, l'imparfait du subjonctif ne va pas être massif, mais va être dans le courant du discours tout à fait évident. Et que là, le problème, ce qui, moi, me paraît le rêve, l'idéal à atteindre dans cette histoire, c'est de garder à la fois la jouissance de cette langue, parce qu'il y a une très grande, pour nous actuellement qui avons été un peu en écart de langue, hein, où on est arrivé sur des mots, des silences, des blancs, le mot sans, le verbe sans, on retrouve
qui vont privilégier quelquefois le laconisme, quelquefois le non-dit, la sous-conversation, le silence comme forme ultime de l'expression. Enfin, on retrouve la profusion et l'opulence de la langue. Enfin, c'est vrai. Mais, vous savez, le jeune acteur qui se préparait au conservatoire avec la terrible soupçon d'une scolarité inutile et académique, comme ça, j'oscillais entre deux... D'un côté, je me rappelle une répétitrice qui relayait une tradition, une tradition de la déclamation française. Donc, un texte, c'était un crayon et une bonne quinzaine de signes par vers. Alors, voilà. Alors, le texte, le petit classique Attier ou Larousse, n'était plus qu'une partition épuisante, enfin... Où chaque syllabe était agrémentée d'un tiré vers le haut, vers le bas, d'un tréma. Enfin, j'étais absolument exténué. Je ne comprenais absolument rien. Cette approche purement phonétique du texte me. Alors, à l'inverse, et en réaction, une espèce de réalisme comme ça, pour aller vite cinématographique, enfin, de rage de parler ça comme. Enfin, de nier la différence, de nier, évidemment, était très excessive et a conduit à un de ces jolis malentendus. Mais aujourd'hui, s'approcher de cette langue-là, d'abord dans sa construction phrastique, dans ses enjeux de sens, et découvrir que peu à peu, on ne peut y atteindre qu'en faisant sa part technique, essentielle, à l'ordonnancement même de cette écriture-là, je crois que c'est ça.
Et si je vous demande quel est le premier alexandrin qui vous vient à la tête ?
Là, j'ai toujours eu, toujours admiré ces gens qui savent immédiatement vous dire... Je crois que c'est l'alexandrin que je suis le plus important capable de proférer sur une scène, je crois que c'est l'alexandrin initial d'Abner dans Athalie. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel.
Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Je viens selon l'usage antique et solennel célébrer avec vous la fameuse journée où sur le mont Sina la loi nous fut donnée.
On est dans un état aujourd'hui où...
Jean-Louis Rivière.
Au fond, il n'y a pas de tradition de diction de l'alexandrin. Et c'est très difficile de... c'est difficile et facile en même temps, mais c'est un peu délicat de s'interroger là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tradition? Et notamment la Comédie française qui a la réputation d'être le lieu même de la tradition. Et je suis convaincu que des tas de gens imaginent que on se transmet comme ça de génération en génération la bonne manière, ou la vraie manière, ou la manière juste de dire les vers. Or, c'est pas du tout le cas. Alors, je crois que c'est un petit peu lié à l'histoire de la place de ce vers dans l'histoire de la dramaturgie, enfin de l'écriture dramatique, où après les grandes pièces du classicisme, Racine, Corneille, l'alexandrin devient presque le moyen de parler au théâtre, pas tellement dans la comédie, mais essentiellement dans la tragédie. Ça n'est presque plus, disons, une contrainte métrique, une contrainte donnée à la langue, mais simplement la manière de parler. Ça n'est plus un maître, c'est une langue, quoi. Et quand au XVIIIe, au XIXe siècle, tout le monde écrit en vers, ça n'est pas du tout par, disons, le plus souvent un souci poétique, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on parle, tout simplement, comme en France, on parle en français, et en Espagne, on parle en espagnol, et bien au théâtre, on parle en alexandrin. Donc il y a une espèce de naturalisation du vers. Le vers devient une nature, une autre nature pour ces êtres particuliers que sont les poètes dramatiques et les acteurs qui interprètent les œuvres des poètes dramatiques. Et en se naturalisant, le vers, je dirais, s'incorpore, ou se devient presque comme un organe du corps. C'est-à-dire un organe, mais qui fonctionne tout seul. On n'a pas besoin de faire attention à son cœur pour que le cœur fonctionne. Mais je dirais que pour l'acteur ou pour le poète, le vers, c'est un peu comme un organe du corps. Si bien qu'on arrive devant une sorte de paradoxe, c'est quelque chose d'où syllabe comme contrainte poétique, c'est absolument un code dont on suit les prescriptions. Et en même temps, c'est devenu, dans l'histoire de la poésie dramatique, c'est devenu une nature, quoi. Donc on est vraiment dans une paradoxe qui a une tension, je crois, très 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 forte, mais qui renvoie en même temps au paradoxe essentiel du théâtre, qui est le monde et qui n'est pas le monde, qui représente le monde mais qui est pur artifice, quoi. Donc avec la naturalisation du vers, au fond, c'est une sorte d'écho poétique ou d'écho rythmique à la nature profonde du théâtre, d'être une sorte d'intermédiaire entre le monde et l'imagination, entre la nature, le naturel et l'artifice. Ce qui explique que, pour la diction de l'alexandrin, on est si souvent balancé entre une version parlée, une version chantée, que depuis quelques siècles, on s'étripe gentiment sur les modes de diction entre le parler et le chanter.
Je l'en dis, je l'en dis nuit et jour, ombre de moi, et mon mal est extrême.
Vous disiez aussi, enfin, que le fait que l'alexandrin nous semble naturel, c'est une chose culturelle, effectivement, mais c'est ça la chose intéressante, c'est que c'est de la culture devenue de la nature. Et je trouve que pour interroger ce point-là particulièrement, il y a une pièce qui est en alexandrin, qui n'est pas une tragédie et qui est dans le dialectique du naturel et de l'artificiel absolument admirable, fait, du point de vue de la prosodie, une extraordinaire réussite, c'est le misanthrope. On est devant un point de réussite géniale, à proprement parler, entre le naturel et le codé, quoi, dans le misanthrope. L'état de doute et art de vivre, quand vous employez ces deux expressions, pour moi, c'est absolument lié au faux débat qui existe sur l'alexandrin. Et je dis faux débat, mais en un sens absolument essentiel, fondamental, et débat qui doit être maintenu, et maintenu dans sa fausseté. Et ce faux débat, c'est celui entre le naturel et l'artificiel. La chose absolument fascinante dans l'histoire du théâtre, en général, puis dans l'histoire de la déclamation, de la diction aussi, c'est qu'au fond, toutes les avancées se font au nom du naturel. C'est-à-dire, il arrive un moment où quelqu'un dit, alors toute la manière dont on procède est absolument compassé, que surcodé, artificiel, artificieux, etc. Il faut retrouver le naturel. Ce qu'on retrouve, c'est absolument pas le naturel, c'est un autre code. Mais poser le problème de cette manière-là, c'est un moyen d'avancer. Et ce qui me paraît très énigmatique, c'est pourquoi est-ce que c'est l'alexandrin qui a eu ce succès-là dans la poésie et dans la poésie dramatique aussi. Alors ça, c'est moi, ça me fascine tout à fait. Enfin, je ne me l'explique pas autrement que par cette histoire de maître devenu corporel, quoi. C'est, et par le fait que c'est facile de faire des alexandrins. En réalité aussi, si vous décidez de parler en alexandrin, vous parlez très vite spontanément en alexandrin. En octosyllabe, c'est un peu plus difficile.
Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle.
Madame Jourdain vous baise les mains.
Oh, si je vous demande quel est le premier alexandrin qui vous vient à l'esprit.
Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. C'est celui-là. C'est peut-être celui de tout le monde, non?
Pourquoi avez-vous choisi ce vers de Racine?
Je ne l'ai pas choisi, il est venu comme ça. Si j'essaie de me demander pourquoi il est venu comme ça, je pense que c'est lié à son extraordinaire simplicité et singularité. Souvent, on pense que quand on fait une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, c'est une phrase qui aurait pu être faite par n'importe qui. Le propre des écrivains, c'est de faire une phrase aussi élémentaire qu'un sujet, un verbe et un complément, mais qu'elle n'ait pas pu être dite par quelqu'un d'autre. Et je trouve que dans ce vers-là, Racine atteint à cette extraordinaire simplicité et singularité. Simultanément, c'est comme des pages de Beckett, quand le passage commence par « De sa couche, elle voit se lever Vénus ». La phrase est aussi extraordinairement simple et on ne peut pas imaginer que quelqu'un d'autre que Beckett l'ait écrite. Peut-être Racine.
C'était Les Chemins de la Connaissance. Question sur l'alexandrin. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Par Françoise Lebrun. Réalisation Jacques Tarony. Dernier volet de cette série de Chemins de la Connaissance, l'alexandrin à la Comédie-Française, avec Jacques Lassalle et Jean-Loup Rivière. Première diffusion sur France Culture le 24 avril 1992.